Du 25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées. Dominique Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vidéaste documentariste.
Oui, c'est ça.
Vous avez de nombreuses créations de documentaires. On peut voir ça sur Internet, j'imagine d'ailleurs. Vous avez une page qui vous est consacrée?
Sur YouTube, on trouve pas mal de sujets que j'ai réalisés. Les films non moins, ça va venir bientôt, puisque on va avoir un site particulier pour notamment toute la collection de documentaires que j'ai réalisés avec un ami, Jean Ortiz, sur l'Espagne républicaine. Nous avons réalisé 9 documentaires longs sur ce sujet. Donc ils vont être mis sur un site pour être visionnés directement sur Internet. Par exemple.
Lors de ces rencontres de l'écologie, vous êtes présent avec votre caméra et vous prenez des instants de ces rencontres.
Oui, alors je profite des rencontres. En fait, c'est pas tout à fait. Je ne viens pas uniquement pour les rencontres. C'est-à-dire que je suis en train de réaliser un documentaire sur des alternatives. Et à cette occasion-là, j'avais choisi le Diwa comme territoire exemplaire, entre guillemets, qui rassemble pas mal d'alternatives, d'initiatives, d'associations, de collectifs, etc. Et j'en ai profité pour à la fois participer un petit peu aux rencontres, comme un objet quand même intéressant de, à la fois d'y participer, mais aussi d'utiliser dans le documentaire, et de profiter de ces moments-là pour rencontrer des acteurs, des gens qui réfléchissent au développement alternatif de la région et d'ailleurs.
Et donc, pour vous, l'écologie est certes un sujet d'intérêt, mais c'est aussi la machine qui est derrière pour mettre en évidence et en place cette notion de l'écologie.
Oui, alors moi, l'écologie pure, je suis pas plutôt spécialiste de ça. Ce qui m'intéresse dans l'écologie, c'est la réflexion, la démarche, mais qui doit être associée absolument à une démarche sociale, politique, ouverte à d'autres problématiques uniquement l'environnement, même si c'est fondamental aujourd'hui de s'intéresser à ça. Moi, je me suis toujours intéressé aux problèmes sociaux, entre guillemets, l'écologie en faisant partie. Voilà. Donc à ce titre-là, je veux dire, moi je travaille beaucoup sur Pau avec Emmaüs, le village Emmaüs Escarpeau, qui est une alternative, hein, qui ne cache pas, qui est une alternative à la fois économique, sociale, culturelle et écologique évidemment, puisqu'ils défendent évidemment une façon de consommer dans la sobriété, une façon de produire uniquement ce qui est nécessaire, etc. Donc on en revient aussi à ce qui a été abordé hier, la décroissance, ce matin, la sécurité sociale de l'alimentation. Enfin, tous ces sujets-là sont liés, enfin pour moi, ils sont liés dans l'idée d'un devenir différent et plutôt favorable à l'être humain.
Vous dites exercer à Pau principalement, mais vous allez aussi à travers la France pour des organisations très variées, mais toujours aussi sur l'aspect du social.
Oui, moi, social et politiquement un peu incorrect, quoi. Je veux dire, ça se met en opposition au système capitaliste, au système consumériste, etc. Donc c'est plutôt essayer de donner la parole à des gens qui ont des projets de ce type-là, ou pas que des projets, des réalisations de ce type-là, de façon à les faire connaître, à les faire réfléchir le public sur des sujets un peu différents, qui peuvent les questionner, qui peuvent les surprendre même, ou alors aborder des sujets plus, j'allais dire, historiques, mais liés au présent, comme j'avais fait sur l'Espagne républicaine, donc avec un copain prof d'espagnol à la fac de Pau, et où on a montré que ces républicains espagnols, leur bagarre, leur combat, etc., est toujours d'actualité. C'est-à-dire que l'ennemi est toujours le même. Et voilà, ce qui m'intéresse dans le documentaire, c'est la portée, je veux dire, d'aujourd'hui. C'est-à-dire faire réfléchir aujourd'hui sur des sujets même qui datent d'il y a 70 ans.
Il y a cet aspect du constat par vos vidéos sur ce qui existe, ce qui s'active. Est-ce que vous y voyez quand même, depuis que vous exercez, une évolution des mentalités sur ces sujets ?
Ah ben je crois que oui, en quelques années, il y a quelques années, les sujets sont apparus surtout, ont été mis sur la place publique, on ne peut plus les cacher ni les ignorer. Quoi. C'est sûr que la bagarre sociale est importante et c'est un combat de tous les jours. Mais ce qui a évolué, c'est les moyens de diffusion aussi. Internet a permis de diffuser pas mal de sujets que j'aurais jamais pu diffuser il y a 40 ans, c'est sûr. En même temps, ça prend une telle proportion qu'il y a tellement de production aussi qu'on risque de se noyer, se perdre. Donc c'est même un peu compliqué. Moi, je privilégie totalement le public direct, c'est-à-dire des séances de cinéma, soit des cinéma à réessayer, des associations, des réseaux militants, etc., de façon à avoir un public en live, en direct, et échanger. Je crois que là, l'apport est beaucoup plus important que qu'on lance un sujet sur Internet, on ne connaît pas bien l'impact.
Vous dites parler avec, de vous intéresser aussi à ces milieux alternatifs, non conventionnels. Est-ce qu'il y a des personnalités bien implantées au sein de l'administration ou au sein de structures qui opèrent sur une grande échelle ? Est-ce que ce sont des contacts qu'on peut entendre dans vos documentaires ?
Oh oui, moi j'ai essayé d'associer chaque fois que je pouvais à la fois des intellectuels et des gens de terrain, toujours. C'est des gens qui font les choses et des gens qui réfléchissent aux choses. Et je crois que les deux sont évidemment fondamentaux. Et c'est toujours mettre en lien. Moi, je pense toujours à Bernard Friot, par exemple, sur le salariat, sur le salaire à vie, sur la sécurité sociale de l'alimentation. Pour moi, c'est un penseur, fondamentalement utile. En même temps, il y a des lieux qui font ça peut-être sans le savoir, mais qui pratiquent une réelle, peut-être pas révolution, mais enfin des gros changements lourds au niveau des relations sociales, relations au travail, relations à l'argent. Et ça, c'est très, très important. Et dans le milieu agricole, évidemment, tout ce qui est l'agroécologie, avec Pierre Rabhi, avec beaucoup d'autres, ou Paul Ariès sur la pauvreté, sur la défense. Il y a toujours besoin de ces gens-là qui ont besoin du terrain pour réfléchir et en même temps qui nous renvoient une réflexion qui nous fait grandir, qui nous fait avancer.
Les propos qu'ils tiennent, que vous captez, sont celles de l'expérience aussi. Parce que vous citiez YouTube tout à l'heure. Effectivement, YouTube, on peut s'y noyer. Il y a tellement de documentaires qui ne sont pas forcément judicieux, voire peut-être trompeurs. Donc, je voulais savoir si... vous prenez bien en compte la réalité du terrain avec les personnes qui s'y activent.
Ben c'est vers ça que je tends au maximum, c'est-à-dire essayer d'être à la fois le plus honnête possible, mais tout en avec une tendance, et ça je l'avais déjà quand j'étais dans mes études d'audiovisuel, comme on disait à l'époque. Dans mes études, il y avait cette envie d'utiliser la vidéo à l'époque, légère, ce qu'on appelait la vidéo légère, noir et blanc, à des fins pour donner la parole à des gens qui ne l'ont pas facilement, quoi, et démultiplier cette parole-là. Et alors, ce n'est pas justement forcément les penseurs ni ceux qui sont déjà devant de la scène, mais c'est plutôt des acteurs de l'ombre, ceux qui font au quotidien des choses dans des quartiers, dans des associations peu connus, mais qui ont une valeur universelle. Et j'ai toujours cherché un peu ça. Alors, je n'ai pas toujours réussi, mais c'est vers ça que je tends à chaque fois. Alors, c'est sûr que quand tu dis le problème de YouTube en chinois, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour faire la différence entre un sujet honnête et un sujet malhonnête, c'est pas facile. Les fake news, etc. Mais ça, c'est le risque de ce système-là, quoi.
Comment se fait-il que vous soyez présent à ces rencontres ? Est-ce que vous avez pris l'initiative de venir ou alors on vous a sollicité ?
Ah non, j'ai pris l'initiative de venir aux rencontres, les connaissant déjà et sachant que j'allais y trouver pas mal de sujets intéressants. Pas tout m'intéresse pas, ce qui est normal, mais c'est le propre de ce genre de rencontres. Et en même temps, moi, ça me permet de nourrir mon travail documentariste sur ce thème des alternatives, où j'ai pu rencontrer et je rencontrerai encore des personnalités, toujours pareil, des penseurs et des acteurs. C'est ce qui est même bien ici aussi dans ces rencontres, qu'il y a cette cet équilibre. Il y a au moins ce mélange-là qui fait qu'on s'y retrouve. Enfin, moi, je m'y retrouve assez bien. Et en plus, il y a une ambiance, je trouve, que très, très sympa, très, très décontracte. Voilà, donc on est bien, quoi. À dire, on est pas mal.
Dans un bel endroit. Et comment se prépare un documentaire pour vous ?
Alors là, il y a plusieurs...
Par exemple, là, actuellement, vous êtes sur quel aspect, d'ailleurs
Alors, le chemin directeur, là, c'est pas simple parce que c'est un peu au jour le jour. C'est-à-dire, c'est des rencontres qui font que j'ai d'autres rencontres, etc. Avec des personnes qui portent des projets qui m'intéressent. Et c'est une construction un peu à l'improvisation. Je sais que pour moi, ça va être un très gros travail de montage après. Mais c'est une des façons de travailler le documentaire. C'est un peu... Alors j'avais pris quelques contacts à l'avance puisque je suis déjà venu en décembre tourner des séquences ici, et notamment à la radio, à Audio Diwa. Et donc j'avais tout ça, j'avais prévu, j'avais organisé, je savais quelle personne je voulais. Mais de cette première séquence de tournage, j'en ai retiré des contacts à reprendre. Et donc voilà. Donc les rencontres, pour moi, c'est important de montrer que ça existe et ce que c'est. Et en même temps, c'est d'exploiter un peu le terrain pour profiter des gens qui sont là, que je ne pourrais pas avoir parce qu'ils viennent d'ailleurs, parce qu'ils sont... Voilà. Alors, ces façons, il y a d'autres façons de travailler les documentaires, plus structurés, plus écrits, par exemple. J'en ai fait aussi, où en fait, il y a un gros travail de préparation avant, qui est très écrit, où tous les contacts sont déjà pris, les tournages sont prévus, etc. Ça, c'est plutôt quand on travaille avec un producteur exigeant, comme la télé, enfin France 3, par exemple. J'ai travaillé plusieurs fois avec France 3... Bordeaux et François Toulouse, et là il faut quand même être plus rigoureux, sinon naturellement je ne le suis pas, c'est-à-dire je me laisse aller à découvrir les choses, à mesure, etc.
Vous faites tout seul ?
Presque, oui, presque. Ça, ce documentaire-là, oui. Sauf ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire quand de l'étalonnage image ou du mixage son, là je fais appel à des collègues qui sont plus performants que moi là-dessus, quoi, qui sont quand même spécialisés. Mais sinon, le tournage, le montage, c'est moi qui le fais, oui. Et après, suivant la lourdeur des projets, on peut travailler avec un monteur, une monteuse, on peut travailler avec un producteur de son, on peut travailler avec des équipes plus ou moins lourdes. Mais aujourd'hui, le matériel, c'est vrai que le matériel permet de travailler presque tout seul, quoi.
Est-ce que, selon certains tournages ou certains documentaires, vous avez été bouleversé
Ah oui, quand même, oui. Oui, il y a eu des moments forts. Hein. Le souvenir le plus fort que j'ai là-dessus, c'est en Espagne, l'ouverture d'une fosse commune, où les familles et des associations ont ouvert une fosse commune où il y avait 17 jeunes fusillés de la guerre d'Espagne. Et là, c'est quand même lourd, c'est dur. C'était en plus en Andalousie, au mois de juillet, avec à peu près 45-50 degrés. Et les familles autour du trou qui regardent tous les jours, qui regardent l'avancée des fouilles, même si on n'est pas concerné directement, moi je ne l'étais pas, mais je veux dire que c'est une pression terrible. Enfin, il y a vraiment des moments comme ça très forts, ouais, très forts, entre autres celui-là.
Et justement, il y a une question que je me pose. Moi, je prends des photographies parfois, et il y a comme une certaine gêne de pratiquer en fonction de l'endroit où on se trouve, notamment sur des rassemblements ou des réunions. Est-ce que vous ressentez aussi une gêne justement par rapport à ces drames ou ces bouleversements?
Mais la gêne, elle disparaît à partir du moment où on est en contact avec les gens directement et qu'on leur explique ce qu'on fait. S'ils sont d'accord, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus de gêne. Au contraire, je crois que c'est sans rentrer dans le pathos. Hein. Il ne s'agit pas de faire du TF1, de vouloir faire pleurer les gens à tout prix, etc. Ça, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais quand il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. Ça, je crois que, et ce n'est pas forcément la rechercher à tout prix. Mais ce n'est pas non plus la nier. C'est pas, à partir du moment où les gens sont au courant, qu'ils sont d'accord sur le principe, que ce travail-là est honnête dans ce cas-là. Pour moi, ça ne me gêne pas. Si je dois filmer des gens qui ne sont pas au courant, ça me gêne, ça c'est sûr. Donc j'évite ce genre de truc, j'évite ce genre de situation.
Il y a eu de nombreux documentaires. Est-ce que ça a toujours été tourné vers le social, comme vous dites? Est-ce que, pourtant, ça devient un facteur très important en France de la problématique de l'habitat? Est-ce qu'il y a un réel retard dans les mentalités ou dans la prise de conscience aussi?
Ça, je ne sais pas trop. Moi, je sais que j'étais peu concerné. J'ai fait un documentaire il y a pas mal d'années sur le centre-ville de Bayonne, au Pays Basque. Il y a eu une opération de réhabilitation du centre-ville menée par la mairie, par des organismes, etc. Et qui qui en fait se soldait surtout par une fuite, enfin un départ des familles vers l'extérieur de la ville et plutôt une concentration de, j'allais dire, de restructuration en petit volume, c'est-à-dire des studios, des deux pièces maximum, ce qui donne une population de passage en centre-ville et qui vide le centre-ville, des familles, des enfants, etc. Donc c'était un film que j'avais fait, un film critique là-dessus, qui a été censuré d'ailleurs, qui a été interdit de diffusion parce que, évidemment, ça faisait du... Mais c'était, j'avais quand même des appuis importants, notamment le fils de Jacques Ellul, quand même, c'est un urbaniste qui était... Donc j'ai fait un travail sérieux, mais qui s'est soldé par une... Mais c'est parce que c'est un sujet un peu pas tabou, mais la difficulté, c'est qu'on touche à des intérêts privés, beaucoup, et que, les pouvoirs publics, s'ils voulaient vraiment agir, ils ont beaucoup de mal, quoi. Parce que même des villes, il y a des villes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de faire du logement social. J'en connais, sur la côte Aquitaine, enfin la côte Atlantique, etc., il y a pas mal de villes relativement riches qui préfèrent payer, et donc il n'y a pas de lieu pour faire vivre des gens qui viennent bosser, quoi. Donc c'est quand même un gros problème. Alors il y a un problème sur la côte, c'est une chose, il y a un problème après dans les centres-villes, etc., de qualité de vie, quoi, de l'habitat pourri, enfin ça on le sait, quoi. Donc il y a un énorme travail, mais ça c'est, je veux dire, à partir du moment où on laisse faire le privé, enfin je veux dire, la marchandisation de tout, on arrive à ces excès-là, comme la mauvaise bouffe, le mauvais logement, la mauvaise santé, la mauvaise éducation, enfin, etc. Je crois que là, c'est lié. Moi, il me semble que c'est lié.
Effectivement, même dans le Diwa, de nombreuses personnes qui sont plutôt employés, saisonniers, mais natifs du Diwa, et exerçant quand même des activités professionnelles, se retrouvent à vivre dans des camions avec enfants aussi.
Ah oui, non, ça je crois.
Ça, c'est un cas de figure que vous avez déjà vu ou ailleurs?
Oui, à Pau, j'ai connu des gens qui vivaient dans leur voiture, quoi. Et ça, c'est sûr que. Même à Pau, qui est une petite ville. Alors bon, peut-être que les choses sont un peu améliorées, mais on le sait très bien que c'est un gros problème, que c'est un gros souci.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5.
101.7.
FM.
Est-ce qu'il y a un sujet auquel vous tenez, où vous souhaiteriez travailler ?
Je crois que tous les sujets que je fais, c'est des sujets que j'ai envie de faire, enfin, et qui ne viennent pas forcément, enfin, qui ne viennent pas forcément de moi à tous les coups. Mais...
Que ma question, ça serait, est-ce qu'il y a parfois des embûches pour justement travailler sur ces sujets, parce que vous avez certainement besoin d'un financement, probablement. Est-ce qu'il y a des facilités pour des sujets et moins pour d'autres ?
Ah oui, ça c'est sûr que là, je pense, enfin moi c'est pas ça qui m'intéresse, mais je pense qu'il y a des sujets plus porteurs et pour lesquels les télévisions paieraient plus facilement. Moi j'ai choisi de faire un travail d'artisan plus que d'artiste. Et dans ce cas-là, j'assume le fait que je gagne peu d'argent avec tout ça. Quelquefois je gagne rien, je fais des films pour rien. Mais parce que j'ai envie, ça c'est mon choix. Après, quand je peux faire une coproduction, tant mieux, mais... Bon, maintenant, c'est un peu fini. Enfin, j'ai 70 ans quand même, donc je vais me calmer. Mais dans ce que j'ai fait, je regrette absolument rien. Ouais, non, je regrette absolument pas ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. La difficulté, je pense, c'est les jeunes qui essaient de faire la même chose et qui ont beaucoup plus de mal que moi, je l'ai eu. Moi, j'ai eu la chance de démarrer ce métier à une époque où il n'y avait pas trop de monde sur le marché, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'était pas très nombreux à faire ça. Ça permettait d'avoir une certaine liberté, une certaine... Oui, de pouvoir vendre, entre guillemets, vendre nos documentaires. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Hein. C'est vrai qu'il y a on peut dire qu'il y a beaucoup plus de chaînes, mais beaucoup plus de chaînes qui ne diffusent pas du documentaire de qualité, qui diffusent beaucoup de... Excusez-moi de l'expression, mais enfin de... Hein. Donc là, c'est...
Du discutable.
Largement discutable, oui, c'est ça. Et le peu de créneaux qu'il y a pour le documentaire, c'est sur le service public, principalement, et qui se réduit tous les ans, comme peau de chagrin. Donc, c'est pas un choix facile aujourd'hui de faire du documentaire. Il y a d'autres réseaux de diffusion que la télé, heureusement. Moi, je pense beaucoup aux réseaux militants, aux réseaux associatifs, aux réseaux des cinémas ARS. Ça demande de l'énergie pour remuer tout ça, pour organiser. Mais le résultat, c'est chouette, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, en une saison, je veux dire, bon, diffuser le film devant des milliers de gens. Et c'est là le but, quand même.
D'ailleurs, vous êtes présent lors de ces projections de documentaires. Vous allez à la rencontre aussi du spectateur. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous en éprouvez justement de cet intérêt d'un public sur ce type de distribution ?
Mais il y a deux sentiments. Il y a un premier sentiment totalement égoïste, mais qui fait. Parce que où il y a un sacré plaisir de voir les gens réagir à ce que vous avez fabriqué, enfin que vous avez construit. Ça, c'est quand même un sacré plaisir. Et le deuxième plaisir aussi, qui est plus intellectuel, entre guillemets, c'est de voir que ce qui se dit, ce qui se montre, sert à quelque chose, que les gens le reprennent, en discutent, en débattent, et pour vous compte, mais je veux dire, en débattent intelligemment. Et je crois que là, on se dit, bon, ben, on a fait un boulot intéressant. Et s'il reste, après ça, quelques petites bribes dans la mémoire des spectateurs, on a gagné. Ben, c'est ça. S'il ne s'agit pas de changer le monde avec un film, mais si on peut changer un petit peu une vision d'un problème, c'est quand même gagné, quoi. Voilà. Je crois que c'est le même problème pour les radios, pour tous ceux qui créent quelque chose, pour un public, quoi.
Je pense à Jean Rouch, qui était documentariste, mais aussi qui pratiquait la fiction pour en lier les deux. Est-ce que vous avez ce désir également, peut-être, d'amener la fiction, ou vous restez objectivement documentariste ?
Je crois que c'est deux métiers différents. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est, on ne peut pas faire... la fiction, c'est d'abord, c'est de l'écriture, c'est du littéraire avant tout. Et c'est une démarche beaucoup plus lourde, en plus. Mais c'est vraiment un état d'esprit. C'est une façon d'aborder les sujets. Je trouve ça passionnant, hein, pour ceux qui le font. Mais moi, c'est pas mon choix, parce que j'aime la réalité, quoi. La réalité reconstruite, que je reconstruis, moi, à ma façon. Mais j'aime bien travailler sur ce réel, plus que sur la fiction, quoi. Et ça, cela dit, je crois que c'est Truffaut qui disait que le documentaire, c'était la fiction la plus difficile à réaliser. Mais bon, ça, c'est juste une anecdote, ça fait plaisir, c'est pour se faire plaisir que je dis ça.
Vos documentaires, vous y proposez de l'image, du son. Quelle est votre part ou votre présence dans ceci ?
Là, c'est plus compliqué. Enfin, moi, je crois que j'y suis un peu dans la couture de l'ensemble. C'est-à-dire que mon père était artisan tailleur. Donc, c'est pas par hasard si je fais cette comparaison-là. Mais... C'est là que ça se trouve. Au tournage, on essaie de capter des choses qui nous intéressent, qui sont là pour alimenter un discours qu'on a dans la tête, enfin une proposition de discours qu'on a dans la tête. Mais après, tout s'écrit au montage, et au montage, en mélangeant justement les sons, la musique, le bruit et l'image, on arrive à reconstituer un réel qui n'est pas réel. Ça, il faut... Un documentaire ment, ça c'est sûr, c'est la base, puisque c'est pas la réalité. Mais il se rapproche le plus possible, le plus près possible d'une réalité que l'on veut transmettre. C'est ça le but.
À quel moment devient-il fou ?
Et c'est uniquement des parties, des petits bouts de réalité qui sont mis, qui sont réorganisés comme une sorte de mosaïque. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas la réalité, c'est des petits bouts de réel, mais que l'on fait dire, on crée autre chose avec le montage. Ça, il suffit, il y a des exemples superbes, il suffit en mémoire, j'ai un plan d'une image où il y a une femme seule en haut d'une montagne en Espagne, et qui témoigne des horreurs du franquisme. Et à un moment donné, c'est un plan assez large où on la voit toute seule, et en fond, il y a les montagnes. Et là, il y avait un silence, et puis je ne savais pas quoi faire pour utiliser ce plan et ce silence. J'ai mis un aboiement de chien au loin, et la scène devient dramatique à cause de l'aboiement du chien. Que le silence, ça ne suffisait pas. Donc là, c'est la manipulation. Mais dans l'envie de montrer, et ça vient dans le sens, je veux dire, que je voulais donner à cette séquence-là, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est du mensonge. C'est-à-dire, le chien n'existait pas.
Ça me fait penser à Le Cinéaste, ce film russe. C'est un travail qui vous a beaucoup marqué.
Ah oui, non, mais de toute façon, celui-là, et puis pas mal de documentaires russes, il y a une approche extraordinaire. Je veux dire, là, c'est une école qui m'a marqué, oui, c'est sûr. On a étudié ça à la fac, évidemment. Ouais. Donc il y a quand même eu des moments des vieux documentaristes qui ont fait des choses extraordinaires, quoi, dont on s'inspire obligatoirement. Enfin, c'est les maîtres.
Oui, ça rejoignait un peu l'idée du montage, puisqu'il y a une séquence avec un comédien. en plan fixe et avec des bandes son très différentes pour donner une intensité très différente.
Ah oui, tout à fait, mais ça on le retrouve. Moi j'avais fait un travail avec, c'est la RTB, il y a longtemps, donc belge, la télévision publique belge, qui avait fait une autocritique de leur façon de présenter le journal télévisé. Et ils jouaient justement sur le rapport, la distorsion image-son. Où il y avait volontairement ou involontairement des distorsions terribles. Et sans aller jusqu'en Belgique, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez des journaux télévisés de Roger Jiquel, qui met bien le drame. Et dans tous ces sujets où il y avait un meurtre, quelque chose de sordide, il y avait toujours une musique de fond, extraite des films de fiction, de suspense, de drame, qui venait renforcer. Et là, on voyait rien à l'image, si on l'étudie. On voyait les rues du village, la maison, le truc, avec une musique d'ambiance abominable. Et là, c'était le drame, c'était terrible. Et la voix de Jiquel là-dessus, c'est de la fiction, ça. C'est pas du journal télévisé. Voilà. Donc c'est vrai que ce rapport-là m'a toujours intéressé. Enfin, et quand on touche à l'image et au son, on est obligatoirement intéressé par ce rapport-là, à faire attention à ce qu'on fait, et puis à créer des choses, des jolies choses aussi, quoi.
Vous avez un site internet, à part le YouTube, où on peut y voir quelques vidéos ou
sur
pas
YouTube, oui. Sur YouTube, il suffit de taper Dominique Gauthier, voilà, ou Emmaüs. J'ai fait beaucoup de films pour Emmaüs, des films courts, moi que j'aime bien. Après, des longs, il y en aura bientôt. Pareil, sur YouTube, on trouvera à mon nom des films que j'ai réalisés. Voilà.
Qu'est-ce qui vous appréhende auprès d'Emmaüs? Ce groupe de personnes qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui s'entraident aussi. Il y a une notion, une politique également de partage, de solidarité. Ce sont des sujets qui sont assez récurrents dans votre travail.
Oui, je crois. Si je me suis intéressé autant à Emmaüs Po, c'est que c'est un lieu alternatif complètement, dans la mesure où ils vivent que de leur travail, et de façon autonome, pas de subvention, rien, avec des gens qui viennent de milieux très très différents, enfin surtout de milieux défavorisés, hein. Ils viennent de la rue ou pas loin. Plus, après, il y a quand même des jeunes qui viennent s'intégrer, qui viennent se mobiliser à l'intérieur du village pour participer, en tant que bénévole, en tant que volontaire, etc. Et ça crée un village, vraiment un village dans le sens où on retrouve tout. On trouve la ferme, puisqu'ils se nourrissent avec leur ferme. Les ateliers, beaucoup d'ateliers différents où ils fabriquent, ils réparent, ils construisent, etc. Les magasins de vente, etc. Le restaurant, le bar. Il y a une vie collective très très forte, mais surtout pas fermée. Pas enfermé, au contraire très très ouvert justement sur l'extérieur. Et ça, moi ça m'a toujours plu, c'est comment ça pouvait fonctionner tous ces gens ensemble. Et moi je m'en rappellerai toujours, la première fois que j'ai tourné là-bas, je suis arrivé, je me demandais comment je vais être reçu par des compagnons, des gens qui viennent de la rue, qui sont cassés, qui sont alcoolos, etc. Comment moi je vais être perçu là-dedans. Et en fait, tout de suite, ça a été extraordinaire. C'est des gens qui ont une réflexion comme tout le monde, et qui ont un amour propre, qui ont besoin d'être, qui veulent être respectés, qui veulent. Et justement, c'est ce lieu-là permet le respect, enfin, amène les compagnons et les compagnes à se respecter eux-mêmes, à se respecter entre eux et à être respectés par les autres. Je crois que ça, c'est la réussite, c'est ça. Quand l'abbé Pierre parlait de mettre les hommes debout à part entière, c'est exactement ce qui s'y passe. Et ça, c'est assez fort. C'est pour ça que ça m'intéresse et que je les aide, je veux dire, à se faire connaître, à essayer de pouvoir accueillir d'autres mondes, d'autres jeunes qui viennent. Et le brassage fait que ça s'enrichit, tout le monde s'enrichit là-dedans.
Il y a cet aspect aussi donc de ce regroupement, hein, de personnes, et on peut le voir aussi sur d'autres types d'activités au-delà d'Emmaüs. Il y a des associations dans ces domaines-là. Vous les abordez également sur des sujets précis.
Ben, oui, en ce moment d'ailleurs, là, aujourd'hui même. Enfin, je veux dire sur ce sujet-là, je vois qu'il y a des liens très forts. Enfin, moi, j'ai découvert des liens entre des structures des liens de solidarité. Je veux dire, bon, dans les popotes, par exemple, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Les popotes cuisinent des repas qu'ils mettent à disposition du public, etc. Ou d'autres exemples, bon, la Carline, comme une coop bio, mais qui est unique en France à fonctionner de cette façon-là, qui a des liens avec des maraîchers, qui a des liens avec des producteurs, etc. Je trouve qu'ici, il y a un tissage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, ils ne sont pas tous dans la même structure, mais il recrée, c'est au niveau du territoire, une sorte de superstructure qui donne cette force, je crois, un développement différent.
Oui, tout comme la trame a dit qu'il va être en collaboration avec Emmaüs dans les prochains mois, à l'adresse, entre autres, des migrants, des populations migrantes.
D'accord. Ok, voilà, moi c'est ce qui me touche et puis qui m'intéresse. Puis j'imagine. Je pense que c'est quand même un des grands progrès que les hommes et les femmes pourront faire, c'est de s'organiser comme ça et d'abandonner et de mettre de côté, ou au moins, avant de pouvoir le transformer, de mettre de côté le système, qui nous enferme, et avant de pouvoir le transformer, ouais, voilà.
Vous reviendrez certainement dans le Diwa, peut-être, pour étudier un peu ce territoire.
Moi, je vais revenir pour deux choses. Sûrement que je reviendrai aux rencontres, mais en plus, je vais revenir en touriste. Parce que c'est superbe et je trouve que c'est très sympa. Voilà.
En début d'été, l'eau est magnifique.
C'est sûr.
Eh bien, en tout cas, Dominique Gauthier, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné du temps pour nous parler de votre travail et puis de vos projets à venir. Vous connaissez le titre de ce que vous tournez actuellement ?
Non, mais les titres, ça vient toujours, enfin souvent en cours de montage. Voilà. Moi, j'ai toujours remarqué que c'est soit un petit bout de phrase, soit deux, trois mots dits comme ça par un intervenant ou une intervenante, paf, qui dit, tiens, ça y est, c'est ça qui ferait le titre parce que ça représente bien ce qu'on veut montrer. Mais à la priori, j'ai pas de titre, franchement, ouais.
Sans vouloir influencer cette interview, est-ce que vous auriez un morceau de musique à proposer pour clore l'émission ?
Oula, la musique, moi j'adore la musique, mais alors, c'est drôle, ça me fait penser à du Bach. Peut-être, bon, c'est un peu classique et très connu, mais quand même, les suites pour violoncelle, bon, voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui correspond bien.
C'est éternel.
Totalement, oui.
Bonne soirée, merci. Au revoir.
Merci.
Here we go, happy holidays. July 4th, 1981, candles of a Roman ilk unloaded from a Chevy truck into the home our folks had built. Patio was charcoals and extended famine, folding chairs safely arced around the yard to focus on the smoking flares. Couple cousins, uncles, aunts, mostly grown-ups, couple brats. Baby Ruby's only two, she's too close to the jumping jacks. Mommy scoops her to the house, buckles up the booster seat, rolls her to the storm door, let her long for all the lunacy. Telephone distracting mom, Ruby wriggles at her strap, fingers push the plexi glass, she's off into the sour patch. Past the pyrotechnics, undetected and invisible. Woke the sleeping beagle, skipping toward the kidney swimming pool. Off into the yawning blue, the splash would mumble rocket ships. Ruby's lungs were filling by the time her camera cognizant. Many sprung and spurned down, all arrived belated, but be she had earlier stirred, had been alert since waking up. Canine let his gainer fly, water top commotion grow. Howling guests assume the globe and hooves succumbed to Delcy Doe. Frenzied and congested deck, parked to let the elder see. Soggy beagle gently dragging Ruby in his yellow teeth. Laid the tiny body in the sun before her father's feet. When she choked the liquid through her bluish lips, he dropped his knee. Helped the other ache in vain. Taylor shaking Ruby off. EMT confirmed the save. Everybody say good dog.